Manuel Valls a prolongé son séjour en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer réunit ce matin pour la troisième fois le comité de rédaction de l'accord de Bougival. La visite de Manuel Valls commentée par le député Nicolas Metzdorf qui était notre invité ce matin. C'est aussi le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver dans ce journal. En métropole, François Bayrou veut s'expliquer sur la préparation du budget qui suscite beaucoup d'opposition politique et sociale. Il tiendra une conférence de presse en 36 heures. Les États-Unis poursuivent leur aide militaire à l'Ukraine, mais Washington programmerait ses missiles longue portée pour éviter aux troupes ukrainiennes de toucher le territoire russe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Et bonjour Jean-François.
On reviendra évidemment sur toute l'actualité sportive du week-end en métropole, dans le monde et en Calédonie. On parlera notamment de football avec la deuxième journée de Ligue 1.
Et Lyon qui a pris les commandes du classement tandis que le PSG reste en embuscade. Ce n'est que la deuxième journée et pourtant le sprint est déjà lancé quand on connaît la cadence infernale que risque d'imposer le champion de France en titre jusqu'au dénouement. Il n'y a pas de temps ni de points à perdre pour les clubs de Ligue 1. Et en bas de tableau, le Paris FC, Metz, Les Vrai, mais aussi les Nantais, maintenant privés d'Antoine Comboiré, qui voit déjà rouge, aucune victoire depuis le lancement de la saison.
On parlera aussi rugby, c'est le début de la Coupe du Monde féminine.
Et le 15 de France à la poursuite d'un rêve de finale mondiale. Les Bleus ont fait le plein de confiance. Une première victoire ce week-end sur les Italiennes 24-0. Il faudra orchestrer la montée en puissance pour la suite des phases de poule, avec déjà un France-Brésil en vue le prochain week-end, avant de faire face aux redoutables Sud-Africaines.
Et puis il y aura de l'athlétisme dans la page consacrée au sport en Calédonie.
Ils viennent de rentrer avec des médailles dans leurs valises. Plusieurs Calédoniens étaient engagés dans des compétitions nationales et internationales. Ces derniers mois, nous ferons le bilan avec le coach Eric Regard qui les a suivis dans les stades de métropole et d'Europe. Il sera notamment notre invité tout à l'heure, donc juste après ce journal.
Manuel Valls devrait quitter la Calédonie ce soir. Vendredi, dans le magazine Transparence, il avait annoncé qu'il prolongeait son séjour jusqu'à lundi pour poursuivre les rencontres politiques, mais aussi pour avancer le travail sur la rédaction de l'accord de Bougival. Et il réunit d'ailleurs ce matin, pour la troisième fois depuis jeudi dernier, le comité de rédaction de l'accord de Bougival. Ça se passe au Sarria, où on en retrouve tout de suite Nicolas Legrand.
Oui, troisième et dernière ronde, a priori, de discussion du comité de rédaction de l'accord de Bougival. On notera ce matin l'absence des deux représentants du Sénat coutumier. Ils avaient demandé, on s'en souvient, lors de la première séquence de cette visite de Manuel Valls, à y être associés. Et après avoir participé aux réunions de jeudi et samedi, Éloi Boé et Ludovic Boula ne se sont pas présentés ce matin au Haut Commissariat. Toutes les autres délégations sont présentes. S'ajoutent à ces délégations deux représentants du CESE qui ont été donc rajoutés à ce comité de rédaction après la rencontre entre le Conseil économique, social et environnemental et le ministre des Outre-mer, c'était samedi. Il s'agit de la première vice-présidente du CESE, Rosanna Roy, et du quatrième vice-président, Patrick Olivo, qui représente l'institution présidée par Jean-Louis d'Angleverne. Ce matin, il s'agit donc de poursuivre et de finaliser l'écriture du projet de loi constitutionnelle qui vise à créer l'État de Nouvelle-Calédonie, à permettre la consultation de la population sur l'accord de Bougival en 2026 et à définir le corps électoral pour les provinciales de l'année prochaine. Ce projet de loi constitutionnelle fixe aussi ce qui relèvera de la loi organique spéciale et de la loi fondamentale, un texte qui doit être déposé au Conseil d'État en ce début de semaine en vue d'être adopté en décembre par le Congrès de Versailles. Les travaux viennent de reprendre après une suspension de séance. Alors évidemment, rien ne filtre du Haut Commissariat, mais on imagine que les délégations doivent se concerter, chacun ayant amendé le texte de l'État. Les loyalistes et le Rassemblement ont souhaité par exemple y intégrer des garanties sur les questions de nationalité, l'UNI y intégrer davantage l'identité kanak. Les travaux seraient sur le point de se terminer. Au commissariat, Nicolas Legrand, RRB.
Merci Nicolas. Et avant de présider cette nouvelle réunion du comité de rédaction de Bougival, séquence rentrée scolaire pour Manuel Valls. Après deux semaines de vacances, plus de 60 000 enfants ont en effet retrouvé les pans de l'école ce matin. Et à Caméré, les jeunes de l'école primaire Edmond Desbrosses ont reçu la visite du ministre des Outre-mer, Charlotte Coulson.
Une visite surprise dans cet établissement situé en zone d'éducation prioritaire qui fait face à de nombreuses problématiques. Difficultés de transport scolaire, d'accès à la cantine ou encore violence. Des situations aggravées depuis l'année dernière. Trois classes ont brûlé dans l'établissement lors des émeutes. Ce matin, le ministre a rencontré son personnel, ses élèves qui leur ont fait part de leurs difficultés. Des politiques en faveur de la jeunesse doivent être déployées dans l'accord de Bougival, selon Manuel Valls.
Au fond, ce que nous faisons tous d'ailleurs pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pour la jeunesse, c'est pour l'avenir. Et donc l'école comme la formation doivent être des priorités. Nous avons une réflexion avec la présidente de la province sud, comme avec les maires de la Nouvelle-Calédonie, c'est de voir comment on peut aider davantage les communes sur deux questions qui me paraissent très importantes, la problématique du transport et la problématique de au moins un repas équilibré par jour à travers les cantines, sachant que les familles sont aidées aussi par les systèmes de bourse. Bon, donc sur ce sujet-là, nous y travaillons avec Claire Durieux, la responsable interministérielle du programme de reconstruction, qui était là il y a quelques jours. Donc j'espère que nous aurons l'occasion très vite de faire un certain nombre d'annonces qui viennent soutenir les communes sur ces deux sujets. Il faut le faire évidemment le plus intelligemment possible. Mais je sais que ça pèse, la question des impayés pèse évidemment notamment sur les finances des communes.
L'école Edmond de Brosse compte 260 élèves, c'est 60 de plus qu'en 2023, car l'établissement a accueilli des jeunes d'écoles détruites lors des émeutes. Son équipe est donc confrontée à de nombreuses difficultés dont il était nécessaire de rendre compte, selon la présidente de la province sud, Sonia Baquès.
On a proposé qu'ils viennent visiter cette école-là parce que le quartier a été particulièrement touché. Cette école a été préservée en partie parce que les parents l'ont gardée, y compris la nuit, et beaucoup de dégâts dans les alentours. C'est une école avec énormément de mixité et des problématiques qu'on rencontre partout, et notamment la problématique d'enfants qui ne mangent qu'une fois par jour à la cantine, de problématiques de violence intrafamiliale, de parentalité, etc. Et donc, dans la mesure où l'État doit réfléchir à comment nous accompagner, c'était important qu'il voit une école de ce type qui cumule toutes les problématiques en une seule école.
Aujourd'hui, le quartier de Caméré n'a plus de médiathèque, plus de centre médico-social, plus de postes, plus de supermarchés. L'équipe enseignante parle d'une précarité accrue chez les familles qui se fait ressentir notamment au niveau de l'alimentation des élèves. La directrice de l'école, Isabelle Passacquin, espère une aide de l'État en ce sens.
L'an dernier, la province sud avait fait passer un questionnaire aux élèves, à savoir comment ils sentaient leur quantité de nourriture de chaque journée. On a environ un tiers des élèves qui disaient sentir ne pas assez manger dans sa journée. La Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie nous apporte de l'aide par rapport au petit déjeuner en nous offrant des biscuits, des compotes, du non périssable. Beaucoup d'élèves mangent à la cantine, 150 élèves sur 260 mangent à la cantine, et il y a également 100 boursiers. Donc c'est vrai que l'aide des bourses et l'aide de la cantine apporte quand même un mieux-être. Mais tous les enfants ne peuvent pas manger à la cantine, tous les parents ne peuvent pas le payer. C'est peut-être dans ce sens-là où l'État pourrait apporter une aide aux familles.
Rappelons que dans la répartition des compétences, les mairies sont en charge de l'entretien et de la construction des écoles primaires publiques, tandis que les provinces sont en charge de la carte scolaire, de l'affectation et de la rémunération des agents.
Le député Nicolas Metzdorf était notre invité du matin à 7h30. Nous sommes revenus avec lui sur la visite du ministre des Outre-mer et notamment Elisabeth Noir sur les réunions du comité de rédaction.
Un comité au cours duquel les élus rédigent le projet de loi constitutionnelle, c'est-à-dire la modification de la Constitution, explique Nicolas Metzdorf. Il indique que des précisions ont notamment été ajoutées concernant le maintien de la nationalité française. Nous avons aussi demandé aux députés de la première circonscription si l'accord de Bougival peut être mis en œuvre sans le FLNKS.
Moi, j'ai envie de dire que déjà, on fait une erreur de langage qui est stratégique, c'est-à-dire qu'on appelle le FLNKS le FLNKS. Le FLNKS, c'est quoi ? C'est l'UPM, c'est le PALICA, c'est le RDO et c'est l'Union Calédonienne. Aujourd'hui, l'UPM et le PALICA ont quitté le FLNKS. Donc c'est un FLNKS déjà qui marche sur une jambe. La deuxième chose, c'est qu'on voit que l'Union Calédonienne, on ne sait pas trop comment elle se positionne, parce que son président, M. Tchibaou, on ne l'entend pas. Depuis Bougival, il a signé Bougival, et on ne sait pas quelle est sa position sur l'accord. Donc on voit que déjà au sein du FLNKS, le parti qui reste, l'Union Calédonienne, ce n'est pas très clair. Ensuite, le RDO, Alosio Sacco, lui, était très favorable à Bougival. Donc les quatre partis historiques du FLNKS, la position, enfin, sauf pour ceux qui sont partis, mais les deux autres qui restent dedans, ce n'est pas très clair. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont rajouter au sein du FLNKS, mais tous les groupuscules extrémistes de la CCAT en fait, tous ceux qui ont fait la CCAT. Donc c'est plus quelque part aujourd'hui, quand on dit le BP du FLNKS s'est exprimé, j'ai plus envie de dire, mais c'est la CCAT qui s'exprime, puisque c'est Henri Jouni, Dominique Fauchy, Marie-Pierre Goyetch. Donc c'est tous ceux qui ont mis en œuvre la CCAT. Donc c'est faux de dire que c'est le FLNKS. Donc la réponse à votre question, c'est de dire, oui, on peut avancer sans eux, parce que la CCAT, de toute façon, sera toujours contre tout accord en Nouvelle-Calédonie, puisque leur seul objectif, c'est l'indépendance kanaki en 2025, le 24 septembre. Donc, on ne peut pas discuter sur ces bases-là.
Et puis, nous avons aussi interrogé Nicolas Metzdorf sur les récentes déclarations de Christian Théin. Manuel Valls a affirmé que le président du FLNKS avait donné son accord pour que sa délégation signe. En réponse, Christian Théin a déclaré qu'il n'était pas à Bougival.
Mais moi, je l'ai vu, Christian Théin, à Bougival. Donc, on n'est pas des menteurs, quand même. Il était là le matin de la signature, Christian Théin, à l'hôtel. Il n'a pas signé, évidemment, mais il était là, dans le patio de l'hôtel, comme on dit. Et puis, chaque jour, à Bougival, la délégation du FNKS nous le disait très officiellement qu'ils allaient rendre compte à Christian Théin des avancées des discussions. Donc, Christian Théin a participé, qu'il soit présent à l'hôtel ou non, directement aux négociations. Donc, quand Christian Théin vient à 5h du matin à l'hôtel et qu'à 6h du matin, la délégation du FNKS signe, ça veut dire quelque chose. Vous pensez que si Christian Théin s'était opposé à la signature du FNKS, une heure après sa présence, la délégation aurait signé. Donc il y a un moment donné, je pense qu'il faut qu'il assume, Christian Théin.
Pour la mise en œuvre de l'accord de Bougival, un calendrier extrêmement contraint a été présenté par Manuel Valls. Le député Nicolas Mézorf pense qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale, malgré les oppositions ou les réticences de certains groupes comme LFI et le Rassemblement National.
Alors LFI, c'est même pas la peine d'y compter, hein, parce qu'ils invitent Christian Théin à leur meeting d'été, ils disent des inepties plus grandes les unes que les autres. Ensuite, la majorité, je pense qu'elle peut se faire en partant du Parti Socialiste jusqu'au RN. Je pense que le RN sera favorable, il va falloir discuter un petit peu avec eux, et Marine Le Pen notamment. Je pense que les socialistes, eux, sont proches de l'Unipalika, historiquement, donc ça devrait aller, mais ça va être un gros travail. Et puis aussi, il faut dire une chose, c'est qu'on a tendance à l'oublier, c'est que les élus calédoniens pensent qu'à eux tout seuls, ils peuvent changer la constitution de la République française. Mais il va y avoir des débats à l'Assemblée nationale. Au-delà d'être pour ou contre Bougival, il va y avoir des détails techniques et politiques qui vont faire débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce qu'en fait, quand on touche la constitution de la République française, on touche la constitution de tous les Français. Et donc forcément que les sénateurs et les députés vont avoir des choses à dire. Donc je pense qu'il va y avoir une majorité, si on va jusqu'au bout, mais il va y avoir des débats.
Et puis le processus législatif pourrait également être compliqué par le climat politique national, avec notamment un risque de chute du gouvernement Bayrou, voire une dissolution de l'Assemblée nationale.
On est toujours soumis aux aléas de la politique nationale. Alors, s'il n'y a pas de censure, le congrès de Versailles en décembre, c'est sûr. S'il y a une censure, ça peut retarder. C'est-à-dire que la censure, en fait, on est obligé d'attendre que le gouvernement soit reformé derrière, que Emmanuel Macron nomme un Premier ministre et que le Premier ministre nomme son gouvernement. Le scénario le plus risqué pour nous et pour Bougival, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que si il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et que la majorité change, typiquement si l'extrême-gauche remporte la majorité ou LFI est très puissant à l'Assemblée nationale, ça risque de nous compliquer la tâche. Donc on va dire qu'une motion de censure, c'est une question de calendrier. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un réel risque. Après, je pense que pour en avoir discuté avec le président de la République, il n'y aura pas de dissolution et je ne sais même pas si la censure, il y aura une majorité pour qu'elle passe.
Une interview de Nicolas Mézorf à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
On vient de l'évoquer, Christian Théin dément avoir donné son accord pour la signature de Bougival. Il réagit ainsi aux déclarations du ministre des Outre-mer qui avait affirmé dans le magazine Transparence sur notre antenne que le président du FLNKS avait donné son accord à la délégation.
Comme c'est une réforme constitutionnelle, c'est au législateur, c'est le constituant qui a son mot à dire. Il y aura des débats, mais fort de l'accord de toutes les organisations politiques et de beaucoup de gens, qui, y compris au sein de l'UC ou du FLNKS, y sont favorables, nous pourrons avancer. Je rappelle que le président du FLNKS avait donné son accord à sa propre délégation. Donc il faut discuter, il faut convaincre, il faut préciser.
Une délégation de Manuel Valls, vendredi midi dans le magazine Transparence. Christian Théin, qui a participé ce week-end aux universités d'été de la France Insoumise et d'Europe Écologie, a réagi par communiqué pour s'insurger sur le fait que depuis plusieurs semaines, certains discours cherchent à faire croire qu'il aurait donné son accord. Je le dis avec force et clarté, cette affirmation est mensongère. Je n'ai jamais donné ni directement ni indirectement mon aval à une quelconque signature, écrit le président du FLNKS. Il affirme qu'il n'était pas présent à Bougival à la suite d'une décision politique mûrement réfléchie. Je ne pouvais pas, écrit-il, cautionner une mise en scène orchestrée par l'État français. On sait toutefois que le président du FLNKS était bien présent à Bougival et qu'il s'est entretenu régulièrement avec la délégation emmenée par Emmanuel Tchibarou. Et pour refermer cette page consacrée à la visite du ministre des Outre-mer, on va retrouver tout de suite la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Débat à distance entre Manuel Valls et Christian Théin. Le ministre des Outre-mer prolonge son séjour en Nouvelle-Calédonie et le président du FLNKS n'a pas le droit d'y revenir. Mais cela n'empêche pas les échanges affleurés plus ou moins mouchetés, alors que nous sommes confrontés à une question aussi lancinante qu'existentielle. Peut-on mettre en œuvre Bougival sans le FLNKS ? Je ne veux pas mettre en œuvre l'accord de Bougival contre le FLNKS, répond Manuel Valls. Mais il cherche des interlocuteurs et pour l'instant, il ne les a pas trouvés. Au point qu'il demande au FLNKS et à son président qu'il nomme une délégation parce que, dit-il, il n'y en a pas aujourd'hui qui soit en capacité de revenir, de discuter, d'enrichir l'accord de Bougival. Manifestement, le ministre n'a pas été convaincu par la délégation du bureau politique qu'il a reçue mardi et avec laquelle il s'est entretenu pendant plus de 2 heures. Une délégation qui lui a dit que ce n'était pas à elle de discuter et de négocier. Et il faut dire que tous les observateurs ont été surpris par sa composition et par son absence de réelle représentativité. Quant au message transmis, nous le connaissons et nous sommes même blasés à force d'entendre les mêmes slogans ressassés de congrès en discours et en communiqués. Mais le ministre, lui, semble abasourdi. Ce que me propose le bureau politique du FLNKS, dit-il, c'est de discuter uniquement avec l'État sous supervision des Nations Unies pour que le 24 septembre prochain, nous mettions en œuvre un processus qui aboutirait à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en 2027, avant l'élection présidentielle. Ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible, ça n'est pas sérieux, répond Manuel Valls, qui affiche son incompréhension, voire son incrédulité, face au rejet de Bougival par le FLNKS. « Je n'ai toujours pas compris les raisons profondes, dit-il, en parlant de régression et en dénonçant la position d'une organisation qui veut passer en force. C'est eux qui veulent passer en force », rétorque le ministre, en renvoyant à l'envoyeur le reproche qui lui est fait. Mais Manuel Valls va même plus loin, en rappelant que le président du FLNKS avait donné son accord à sa propre délégation pour signer l'accord de Bougival. Une affirmation que ne peut laisser passer Christian Théin. Et entre l'Université d'été de la France Insoumise et celle des écologistes, le président du FLNKS se fonde un communiqué pour dénoncer une affirmation mensongère. Et il affirme qu'il n'a jamais donné ni directement ni indirectement son aval à une quelconque signature. Dialogue à distance, je vous le disais, mais dialogue de sourds. Et quand Christian Théin profite de ses contacts métropolitains pour jeter de l'huile sur le feu et proférer des menaces sous-jacentes sur de nouveaux troubles, le ministre des Outre-mer affirme que l'État ne laisserait pas faire. Il confirme le maintien d'effectifs importants de forces de l'ordre avant de déclarer que l'État doit assurer le plein exercice de la démocratie, des votes et aussi bien évidemment la tranquillité publique. Changement de style et d'ambiance pour le ministre des Outre-mer, qui était voué aux gémonies par les partisans de la France après sa proposition de DEVA et qui se retrouve à ferrailler avec une partie des indépendantistes après la signature de Bougival. Une partie des indépendantistes, et c'est un point essentiel pour Manuel Valls, qui sait que de cet accord dépend son avenir politique. L'accord est soutenu par le PALECA et par l'UPM, dont la légitimité indépendantiste ne peut être mise en cause. Un argument qu'il développera notamment pour convaincre la gauche parlementaire de le soutenir si la rentrée politique nationale lui permet de tenir son calendrier. Au point que la question aujourd'hui n'est pas tant de savoir si l'on peut mettre Bougival en œuvre sans le FLNKS, mais de savoir si le FLNKS existe encore.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet. Elle est aussi rediffusée comme chaque semaine. C'est juste après le flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Manuel Valls va-t-il arriver, selon vous, à convaincre le nouveau FLNKS de reprendre la discussion autour de l'accord de Bougival ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Il sera 11h50 dans quelques secondes. Une pause avant de voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est d'abord les faits divers. Après la disparition d'un pêcheur à pied samedi soir à Kumak, le COSNC et la gendarmerie ont arrêté leurs recherches. Un important dispositif a été mis en place, l'hélicoptère Puma défend, que 4 moyens nautiques, mais aussi une patrouille terrestre de gendarmerie. Malgré tout, l'homme est toujours porté disparu, sa senne de pêche et ses lunettes ont tout de même été retrouvées. Noyade, attaque de requins, disparition sur terre, aucune piste n'est exclue et une enquête est ouverte. Toujours en bref, une partie du personnel médical du Medipôle est en grève ce lundi. Un mouvement général qui fait suite à l'appel du STKE aide-soignant qui tire la sonnette d'alarme face à la surcharge de travail et au manque d'effectifs. Les ASH, infirmiers, les aides-soignants, brancardiers notamment demandent une revalorisation des métiers et des CDD, le passage en catégorie B, la suppression des glissements de tâches et une revalorisation salariale. Ils demandent également des réponses sur la question des postes gelés. Une rencontre avec le gouvernement est prévue le 10 septembre. Et malgré cette grève, aujourd'hui, les patients sont pris en charge et le service est maintenu. Et puis les élus du Congrès vont siéger cet après-midi en séance publique. Ils vont étudier une proposition de loi du pays relative à la solidarité et au gaspillage. Une autre proposition de loi du pays sur la création d'un fonds de réserve spéciale a été retirée de l'ordre du jour. Les conseillers doivent aussi étudier une délibération qui prévoit des mesures de soutien à l'emploi. Un repas gastronomique pour la bonne cause hier soir. Les disciples d'Escoffier organisaient en effet le dîner d'Épicure au Rouf, un repas concocté par le chef Frédéric Jauneau, Léo.
Oui, le meilleur ouvrier de France, champion de France de dessert et champion d'Europe de sculpture sur fruits et légumes était accompagné en cuisine d'une quinzaine de chefs de Nouméa. En salle, ce sont les stagiaires du RSMA et les élèves des lycées hôteliers qui ont assuré le service. Retour sur cette soirée avec Olivier Hart, co-président des disciples d'Escoffier en Nouvelle-Calédonie.
Amenez cette plat. Ça partait de la mousse bouche en passant par le crabe, le maï-maï, le filet de bœuf, le fromage et le dessert. Et c'était juste fabuleux en fait. Il nous a fait des plats de haute voltige qu'on n'a vraiment pas l'habitude de découvrir en Nouvelle-Calédonie avec des techniques de mof, donc des sauces d'une pureté et d'une profondeur extraordinaire, des dressages, des présentations somptueuses, pleines de volume, de couleurs, de brillance. Les clients étaient absolument enchantés et ravis de ce qu'ils ont trouvé. C'était même au-delà de leurs attentes. C'était vraiment fabuleux. Les bénéfices récoltés étaient reversés à l'association LACAPA pour s'occuper des personnes âgées, de nos petits vieux qui sont dans le besoin. Donc, on va reverser une partie des bénéfices à LACAPA et une deuxième partie va revenir pour les jeunes talents escoffiers qui nous permettra de financer et le concours et le voyage à l'étranger pour les deux lauréats qui auraient gagné le concours en Nouvelle-Calédonie.
La soirée organisée par les disciples d'Escoffier de Nouvelle-Calédonie était animée par JB, le duo Pachai et Phil l'Enchanteur.
L'actualité dans la région et l'Australie est candidate pour accueillir la COP31, la conférence des Nations Unies sur le climat qui aura lieu en 2026. Et Canberra a reçu le soutien des pays et territoires du Pacifique. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Réunis à Suva, les chefs de la diplomatie des pays membres du forum ont estimé qu'ils avaient ainsi l'occasion de faire de ce sommet annuel une véritable COP du Pacifique. Ils ont aussi réaffirmé dans une déclaration commune que le changement climatique, je cite, « demeure la plus grande menace pour les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des populations du Pacifique » et ont ajouté que, je les cite toujours, le changement climatique demeure un obstacle majeur à la réalisation de la stratégie 2050 pour le continent Pacifique bleu. La COP31 constituera une occasion historique d'accélérer l'action internationale en faveur du climat et de faire entendre la voix des nations les plus vulnérables, ont-ils conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h54, nouvelle pause dans ce journal, la dernière avant de voir l'ensemble de l'actualité en métropole et dans le monde. Et ensuite, ce sera le magazine des sports du lundi.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Du 29 au 31 août, rendez-vous au Dimbéamol pour le week-end de l'auto. Profitez d'offres spéciales sur une sélection de véhicules neufs et d'occasion parmi les plus grandes marques. Venez découvrir les nouveautés et facilitez vos démarches avec la présence de nos partenaires. Alors rendez-vous au Dimbéamol du 29 au 31 août. Et le week-end de l'auto, c'est aussi à la Concession Nord, à Gonnet.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole et François Bayrou sait qu'il joue son avenir à Matignon dans les semaines qui viennent. La rentrée s'annonce chaude pour le Premier ministre, déjà sous le coup d'une menace de motion de censure sur le budget 2026 qu'il va présenter dans quelques jours. Budget qui doit permettre de réaliser 44 milliards d'euros d'économies. Face aux oppositions politiques, il a choisi de s'exprimer dans 48 heures lors d'une conférence de presse. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
François Bayrou veut reprendre son destin en main et ne plus vivre sous la menace d'être renversé par les oppositions. Alors, il joue le tout pour le tout avec cette conférence de presse, confie un de ses proches à Europe 1. En effet, la France Insoumise a déjà annoncé déposer une motion de censure contre le Premier ministre. Pour rester à Matignon, François Bayrou mise sur une double stratégie. D'un côté, négocier avec les socialistes ou le Rassemblement National un accord de non-censure en échange de lourdes concessions. Jours fériés, postes de fonctionnaires, sur les hauts revenus, François Bayrou est ouvert à la négociation. De l'autre, le Premier ministre espère recueillir un vaste soutien populaire à son programme. Seule l'adhésion des Français peut faire basculer ce rapport de force, admet le locataire de Matignon. Un pari loin d'être gagné, car pour l'instant, François Bayrou reste le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République.
Et parmi les mesures impopulaires avancées par François Bayrou, la suppression de 2 jours fériés, même si cela doit permettre de réaliser 4 milliards d'euros d'économies. Les syndicats y sont majoritairement opposés et selon un sondage Odoxa pour Le Parisien, 84% des Français désapprouvent également cette mesure. Les taxis aussi sont en colère et menacent d'un nouveau mouvement. Ils protestent contre la révision à la baisse du tarif du transport sanitaire, explique Dominique Buisson, le secrétaire général de la Fédération nationale du taxi.
À partir du 1er novembre, la méthodologie de facturation aboutira à 30 ou 40% de perte des revenus de prestations des taxis. Sous couvert de faire des pseudo-économies, on nous demande de travailler à 50% du prix aujourd'hui de l'indice kilométrique dicté par Bercy. Et ça a déjà commencé. Il y aura des liquidations judiciaires de certaines entreprises de taxi et donc des licenciements. Ce qu'on attend, c'est que à la fois le ministère de la Santé et la CNAM entendent nos propositions, que l'on se mette autour d'une table, qui nous apporte des éléments chiffrés. Je pense qu'on va en être amené à espérer maintenant que le gouvernement tombe sous des mentions de censure. On ne peut pas continuer comme ça.
Une contestation qui enfle alors que plusieurs syndicats et partis politiques de gauche soutiennent la mobilisation prévue le 10 septembre prochain. Au chapitre des faits divers, l'enquête sur les 4 corps retrouvés dans la Seine, dont plusieurs étaient dénudés, avance. L'une des personnes entendues par la police a été mise en examen pour meurtre en concours. Elle aurait agi pour des motifs homophobes. Parlons maintenant de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Les étudiants de la fac de droit et de criminologie ont voté pour baptiser le nom de leur promotion. Et ce sera la promotion Rima Hassan. Plus de 1300 personnes avaient pourtant demandé à ce que le nom de la députée européenne LFI soit retiré de la liste des candidats, mais c'est finalement son nom qui a été choisi. Ce qui traduit un climat délétère qui gangrène de plus en plus l'enseignement supérieur en Belgique, mais aussi en France. Sébastien Bossois est professeur de Sciences Po et directeur de l'Institut géopolitique européen.
Sciences Po, notamment en France, c'est pas tellement plus glorieux. En ce qui concerne l'ULB, je pense qu'à un moment, j'ai suffisamment probablement pas fait assez allégeance à l'islamo-gauchisme qui sème dans cette université depuis longtemps. Ces étudiants sont souvent biberonnés par des professeurs de droit international et autres qui sont clairement gauchistes, pro-palestiniens, etc. Et je pense qu'on mélange malheureusement tous les genres. L'année dernière, la même promotion du même département criminaux était Robert Badinter. Bon, bah, on passe de Robert Badinter à Rima Hassan, c'est quand même un peu curieux et à mon avis, c'est très dommageable.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Dans l'actualité à l'étranger, les USA ont annoncé le maintien de leur aide à l'aide militaire par l'envoi de matériel à l'Ukraine. Malgré tout, les médias américains révèlent que Washington empêcherait l'Ukraine de frapper la Russie avec ses armes de longue portée. Les explications de Rémi Amalvi.
On parle d'au moins une frappe ukrainienne d'envergure annulée par l'administration américaine, selon les informations du Wall Street Journal qui cite plusieurs officiels américains sous couvert d'anonymat. Depuis environ 3 mois, le Pentagone requiert l'approbation personnelle de son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, pour toute frappe impliquant des missiles américains longue portée, comme les modèles américains MGM 140 Army Tactical Missile System ou britanniques tels que les Storm Shadow, car leur lancement s'appuie sur les données des renseignements américains. Une doctrine à l'exact opposé de celle de l'ancien président Joe Biden qui avait autorisé les frappes ukrainiennes de longue portée sur le territoire russe. En annulant cette autorisation, l'administration Trump dit vouloir éviter l'épuisement de ses stocks mais surtout encourager le dialogue entre Kiev et Moscou. Moscou. Un dialogue qui, malgré les sommets de ces dernières semaines, semble toujours au point mort. Mais le gouvernement américain se montre toujours très optimiste. Sur la chaîne CBS aujourd'hui, le vice-président J.D. Vance a assuré que Moscou avait fait d'importantes concessions sur l'Ukraine à Donald Trump et que tous les partis étaient impliqués dans, je cite, un processus diplomatique de bonne foi.
Et notez que le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait le forcing maintenant pour rencontrer directement son homologue russe en tête-à-tête pour négocier une sortie de guerre. Mais le Kremlin estime que ce n'est pas encore le moment. Il est midi, ce journal est terminé.